Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui a dit que notre Sud-Ouest n'était pas une terre chrétienne? Et si le nombre de fidèles aujourd'hui peut légitimement poser la question, il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour toucher du doigt la véracité de cet héritage de l'Aveyron. On disait même jusqu'à il y a peu qu'il était la Bretagne du Midi, et ce notamment de l'un de ces enfants du pays dont nous allons parler ce matin. Un enfant du Rouergue, devenu missionnaire en Chine et envoyé initialement pour le Tibet, botaniste chevronné, mort martyr en 1905, une vie, que dis-je, une épopée. Jean-André Soulier, missionnaire botaniste aveyronnais au Tibet, rien que cela. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On va partir à la découverte de cette belle figure de notre Sud-Ouest avec vous, Christian Fonte. Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent, CNRS Paris, et auteur donc d'un ouvrage intitulé « Un missionnaire botaniste martyr au Tibet », Jean-André Soulier. On va donner les dates quand même, 1858-1905. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, approchez-vous bien près du micro. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler donc de cet homme. Je le disais, et vous aviez une remarque à ce sujet. On disait de l'Aveyron, donc qu'il était la Bretagne du Midi. J'avais même entendu qu'on disait que c'était la Vendée de l'Est. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez entendue. Vous aussi, vous êtes de ce pays qui a donné donc de nombreux missionnaires. On y reviendra. Et vous vous êtes penché donc sur cette figure, Jean-André Soulier. Alors on va commencer tout simplement par essayer de... Comment vous avez entendu parler de cette figure? Est-ce à dire que dans l'Aveyron, tout le monde a entendu parler d'un Aveyronnais qui a été un jour missionnaire à l'autre bout du monde?
Figurez-vous que je me suis intéressé à ce personnage, non pas par la fulgurance d'un coup de foudre, mais c'est le résultat d'une maturation progressive. J'ai longtemps habité à côté de son domicile, dans la même commune, et personne m'a soufflé mot de son existence. Et ce n'est que il y a quelques années que dans l'épicerie du village, l'épicière Madame Delmas a évoqué ce personnage et a brossé à grands traits quelques éléments de sa vie. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai fait des recherches approfondies. Au départ, je voulais écrire un petit article, et puis quelque chose de plus fourni, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais écrit 700 à 800 pages, que j'ai réduit à un peu moins de 500.
Oui, c'est ça, on arrive à 480 et quelques.
Pour que le livre soit accessible au plus grand nombre et surtout soit facile à lire.
Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes historien, hein, cet ouvrage, on va dire qu'on s'en rend compte. Pour ceux qui seraient intimidés, déjà, ils vont avoir cette émission, mais ceux qui voudraient aller plus loin, je dis quand même que c'est une lecture, certes, roborative, mais bien écrite. On rentre dans une histoire, donc même si c'est un livre d'historien fort fourni, ça se lit. Mais on a l'impression que vous avez mis le petit doigt dans la roue. Après, c'est quoi? C'est l'historien qui a pris le dessus ou c'est vraiment vous avez été fasciné par cette figure?
Non, j'ai les deux. L'historien a été fasciné par la masse de documents qu'il avait sous la main, notamment aux archives des missions étrangères de Paris, 4 rue du Bac. Et ce qui m'a fasciné, c'est à la fois la richesse de la documentation pour la vie de ce missionnaire et de ses confrères et la pauvreté de la documentation pour la vie rurale en Aveyron à la même époque. C'est-à-dire, finalement, j'avais plus de données scientifiques à exploiter sur les marches tibétaines, le Tibet, la Chine et la vie des missionnaires que sur les braves paysans aveyronnais à la même époque. Alors, et ça, quelque part, ça m'a interpellé.
Pourquoi? Parce que les missionnaires écrivaient beaucoup alors que les prêtres du Rouergue moins, c'est ça?
Bien, absolument. La plupart des paysans aveyronnais de cette terre rouergate étaient illettrés à ce moment-là. Très peu savaient lire et écrire. Lorsque c'était le cas, ils prenaient rarement la plume pour raconter leur vie quotidienne. Au contraire, les missionnaires, eux, s'écrivaient l'un l'autre. Ils écrivaient souvent à leur famille. Et puis surtout, ils écrivaient des rapports à leur hiérarchie à leur évêque et leur évêque à la hiérarchie parisienne et à la papauté. Et cela fait évidemment une masse de documentation absolument prodigieuse. Je dois dire que j'ai compulsé des centaines de lettres, voire même des milliers. S'y ajoute tout un tas de données diplomatiques, puisque les marches tibétaines de l'époque étaient un champ de guerre entre les principales puissances occidentales, le Japon, la Chine et puis aussi les Tibétains. Et quelque part, il y a aussi des textes diplomatiques importants, mais d'autres historiens les ont étudiés, ces textes-là, et j'ai eu l'occasion de les réutiliser, de les mettre à mon profit.
Alors, cet enfant, donc, je m'étouffe, Jean-André Soulier, enfant du Rouergue, donc, va se sentir appelé à la prêtrise, il va entrer au petit séminaire, on verra, au séminaire, puis après aux missions étrangères de Paris, être envoyé, donc, initialement pour le Tibet, et finalement, il passera une partie de sa vie sur les marches tibétaines, comme on dit. Commençons par le début. Donc, c'est un enfant, donc, de ce pays que j'ai cité, deuxième enfant d'une fratrie de trois. Donc il naît le 6 octobre 1858, trois enfants dans une famille du Rouergue à l'époque, c'est pas tant que ça, non ? Est-ce que vous pouvez commencer par nous planter un peu le décor, à quoi ressemble, le Rouergue et l'Aveyron en ce milieu du 19e siècle ?
Avant de répondre à votre question, si vous le permettez, j'aimerais préciser aux auditeurs que... tous les faits racontés dans cet ouvrage sont rigoureusement exacts. J'ai essayé de faire comme...
Alors ne faites pas trop de digressions sur les sources quand même, parce que je vois le temps qui passe et je voudrais qu'on ait le temps de parler de tout. Alors vas-y, courte digression. Ah, on coupe pas, on est en direct.
D'accord.
Alors donc, finissez votre digression sur les sources. Et...
Voilà, j'ai essayé de faire comme Marco Polo, qui a visité les mêmes régions, mais plusieurs siècles auparavant, qui a essayé de présenter les choses vues pour vues, les choses entendues pour entendues. J'ajoute les choses lues et écrites pour lues et écrites, afin que le livre soit sincère et qu'il ne comporte pas de mensonges.
Alors, cette précision faite, quid de l'Aveyron en ce milieu du 19e siècle ? À quoi ça ressemble, cette Bretagne du Midi ?
Alors, ça ressemble à, toute une série de petites communautés rurales qui vivent isolées les unes des autres, dans laquelle il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50 exploitations qui vivent quasiment en autarcie. Certaines ont 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants, c'est ce qui explique d'ailleurs la croissance démographique de ces communautés rurales à l'époque. Mais dans la famille de Soulier, ils sont que 3. Et donc, comme on le verra, dans ces communautés rurales, l'objectif des pères de famille, c'est de préserver le patrimoine familial. Donc, de faire en sorte que les ayants droit au patrimoine ne soient pas nombreux. À l'époque, on était sous le code civil de Napoléon Ier, une machine à hacher le sol. Et donc, on essayait de faire en sorte que certains enfants partent se louer dans d'autres fermes ou se marient ailleurs. Certains restaient comme tante, tata ou tonton à la ferme, et puis d'autres encore devenaient religieux ou religieuses et abandonnaient évidemment leur part sur la succession. Dans le cas de Jean-André Soulier, ça a été assez facile, puisque l'aîné est resté à la ferme, lui-même est devenu prêtre, et sa sœur est devenue religieuse.
Alors quid de l'appel ? On n'a pas de traces de cet appel. Il rentre au petit séminaire donc de Belmont, c'est ça, hein ? Mmh. En 1870, donc c'est aussi une date importante, hein, invasion par la Prusse de la France. C'est un enfant, on va dire, appelé comme d'autres. À vous lire, on sent l'historien, il y a un petit peu de piquant. Vous laissez entendre que, bon, les vocations à l'époque, c'était à la fois un appel de Dieu et en même temps un appel pressant de l'Église. Alors, mon capitaine.
Absolument. Je vous cache pas, et je souris d'ailleurs derrière le micro, que sur le concept de foi, l'historien a très peu de réponses à apporter. C'est quelque chose qui appartient à l'individu en propre. En revanche, ce que l'historien sait, c'est que les curés de paroisse faisaient le tour des familles, ils repéraient les enfants les plus doués, et ils leur proposaient... explicitement le fait d'aller au petit séminaire et puis le cas échéant au grand séminaire et de devenir prêtre. Les familles se laissaient faire parce que, comme je l'ai expliqué, cela diminuait la pression sur l'héritage d'une certaine manière, de certains nombres d'éléments familiaux. Et puis, d'autre part, ça permettait aussi d'avoir une instruction gratuite. Et puis, c'était quand même gratifiant pour une famille d'avoir dans la famille un enfant qui devient prêtre et qui exerce, disons, un magistère important auprès de la population.
Alors, en tout cas, lui, il devait être doué, puisqu'il est repéré, ou il se sent appelé, les deux. En tout cas, ce que vous avez lu de sa correspondance laisse pas entendre qu'il n'avait pas la foi, loin s'en faut. C'est une terre, vous citez un chiffre, allez, on reste juste un tout petit peu une dernière fois sur l'Aveyron. Vous dites qu'elle a donné 600 missionnaires, il faut que je retrouve la page, entre 1850, c'est ça, et 1914.
C'est ça.
Donc, alors, mais à l'intérieur de tous ceux qui étaient appelés, il y avait ceux qui se décidaient pour la mission. Et alors là aussi, vous dites que les évêques, y compris même les évêques du pays, faisaient de la publicité pour les missions étrangères de Paris. C'était presque la gloire du pays que d'avoir des missionnaires.
Alors, 600 missionnaires, pas seulement des missions étrangères de Paris, disons tout ordre confondu. Il y avait une multitude d'ordres missionnaires à l'époque, les Pères Blancs pour l'Afrique.
C'était les Pères Blancs, oui.
Les pères de Picpus, etc., les Picpusiens, les jésuites, Saint-Vincent de Paul, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de vocations réelles ou suscitées était tellement important en Aveyron qu'il y avait un volume de potentiel de prêtres supérieur au nombre de paroisses aveyronnaises. Et donc, en Aveyron, on ne se contentait pas d'exporter des veaux, des brebis, du roquefort ou des pommes de terre. On exportait aussi des missionnaires ou des ecclésiastiques en dehors du département.
Et les évêques, c'était la fierté des évêques locaux.
Bien sûr. Alors, la fierté des évêques locaux, leur fierté, c'était surtout pour les missionnaires, notamment l'évêque de l'époque qui était Monseigneur Bourret, et qui était en fait qui voulait devenir missionnaire, mais qui a eu une vocation contrariée. Et il disait d'ailleurs de ces jeunes séminaristes: je veux qu'on les mette aux avant-gardes, aux postes les plus périlleux, ces fiers enfants du Rouergue, solides comme le granit de leur montagne. Ce sont mes fils, je veux qu'ils soient les premiers, il leur faut les climats rudes, la persécution, et il ajoutait le martyr. Et donc on voit bien que quelque part...
Ils n'y allaient pas par l'eau de la cuillère, comme on dit à l'époque. Hein.
Oui, mais c'était l'époque. Je pense que l'éducation, quelque part, à faire le don de soi pour la religion, était quelque chose qui était monnaie courante, et ça faisait partie de l'éducation religieuse, je dirais, obligatoire à Saint-Sulpicienne, à la fois du petit séminaire, du grand séminaire et des missions étrangères de Paris.
Alors, ce séminaire, vous en parlez, donc vous dites aussi que lorsqu'on était séminariste à l'époque, on n'avait pas forcément la vie facile, hein, la vie dans les séminaires était rude. J'ai une dernière question avant qu'on fasse une première pause. Il faut bien avoir conscience, si d'aventure on ne l'avait pas, que à l'époque, lorsque l'on part, c'est pour toujours. C'est un exil quasi définitif, dites-vous. Il y a à la fin de votre livre, Le Voyage de Jean-André Soulier, on voit cet immense voyage qui va le mener jusqu'aux portes du Tibet. Il embrasse sa mère et son père, et normalement, on se quitte pour toujours. Après, il n'y a plus que la correspondance.
Absolument. Quelques-uns arrivent à revenir, soit parce qu'ils sont malades gravement, ils reviennent en France, d'autres parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des charges élevées comme évêque. Je pense notamment à Monseigneur de Guébriant, qui était un compagnon de voyage de Jean-André Soulier, qui sera un personnage important de la hiérarchie ecclésiastique. Mais la plupart d'entre eux, une fois partis, ne reviennent plus. Ils vivent, ils meurent dans la mission qui leur a été assignée. Et cette mission qui leur a été assignée, ils ne la choisissent pas. Ils ne connaissent leur destination que la veille du départ. Et ça, c'est quelque chose de terrible. En revanche, Jean-André Soulier, il voulait à tout prix avoir le Tibet. C'était une des missions considérées comme étant les plus difficiles, les plus périlleuses. Et il a eu le Tibet, mais peut-être que le fait qu'il ait été ce don de botaniste a incité peut-être à ses supérieurs à lui accorder cette faveur.
Un missionnaire botaniste martyr au Tibet, c'est le titre de votre livre, publié à compte d'auteur, Christian Fonte, donc sur ce missionnaire de l'Aveyron, Jean-André Soulier. On fait une pause et on vous retrouve pour parler du Tibet comme si on y était. Et je le dis, franchement, il faut le faire. Le Tibet comme si on y était à la fin, deuxième partie du 19e siècle, ça en demande du travail. À tout de suite.
Emmanuel Pella.
Jean-André Soulier, missionnaire botaniste aveyronnais au Tibet. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On s'arrête sur cette belle figure, figure qu'a exhumée, j'ai envie de dire, notre invité Christian Fonte. Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent, CNRS Paris, auteur donc d'un ouvrage sur cet homme, Jean-André Soulier, né en 1858 et mort martyr en 1905. Alors, vous allez nous faire voyager, comme vous le faites dans votre livre, puisque cet homme donc part pour la Chine, et vous nous disiez juste avant la pause qu'on découvrit, vous disiez, la veille, c'est ça, où est-ce qu'on était envoyé ?
On recevait sa feuille de route la veille du départ.
Donc là, il sait qu'il part pour le Tibet, c'était son désir. Il fait un voyage, vous m'avez dit, pendant la pause, de combien de kilomètres ?
De 20 000 kilomètres, 17-18 000 kilomètres. C'est quelque chose de colossal.
Alors, il se trouve que, en fait, il ne sera pas au Tibet, puisque le Tibet, à l'époque, est une terre interdite. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos chapitres, Tibet, terre interdite. Ce Tibet, donc, on appelle aussi le toit du monde, il y a de multiples expressions. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce royaume vaste comme 7 fois la France, dites-vous ? Plateau le plus élevé de la Terre, vous reprenez l'expression d'un géographe, à quoi ressemblait-il ? Était-il dans le fond si différent d'aujourd'hui ? Quand on lit les récits que vous en faites, ce que vous avez trouvé,
Je pense pas qu'il soit géographiquement parlant et climatiquement parlant différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que les conditions extrêmes décrites dans l'ouvrage correspondent peu ou prou à ce que les Tibétains vivent à l'heure actuelle. La différence, c'est qu'évidemment, les moyens techniques de l'époque étaient beaucoup plus rudimentaires. Les moyens de transport, les moyens de chauffage, les moyens de communication. Il n'y avait pas de route, il n'y avait que des sentiers. Et donc, quelque part, les conditions de vie étaient effroyables. Vous savez, dans ces régions, les avalanches tuées, les brigands rançonnés, les tribus étaient hostiles, les montagnes étaient gigantesques, le vent était violent, le froid était plus que vif puisque ça descendait parfois à moins 35 et moins 40. Voilà, c'était vraiment des conditions, disons, tout à fait extrêmes. En plus, les voies de communication étaient est-ouest, les chaînes de montagnes, elles, étaient nord-sud, de même que les fleuves. Et donc, lorsqu'on voulait circuler de Tatsinlou, qui était le siège de l'évêché, jusqu'à Lhasa, qui était l'objectif inatteignable de nos missionnaires, eh bien, il fallait gravir des montagnes, franchir des vallées, passer des fleuves gigantesques très larges avec des bacs, voire même avec des embarcations de peaux de bêtes gonflées, et donc tout était difficile et compliqué.
Alors, le Tibet, terre interdite, lui, il se retrouvera donc sur les marches du Tibet, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Pourquoi le Tibet, à l'époque, est une terre interdite ? Expliquez-nous.
Alors, le Tibet n'a pas toujours été une...
Il y avait un évêque, en fait, quelque part en charge du Tibet, mais il n'avait pas accès au Tibet.
Non, il n'y a jamais pénétré.
Monseigneur Biet, c'est ça ?
Biet. Félix Biet. Mais c'était un des 5 évêques que le Tibet a eu. Le Tibet, c'est un évêché nominal que le Rome avait créé. C'était le plus grand évêché de toute la Terre, d'ailleurs, de toute la chrétienté, puisqu'il était gigantesque en superficie. Mais en réalité... la majeure partie du Tibet historique a été interdite aux missionnaires. Quelques-uns d'entre eux qui ont pu y pénétrer y ont laissé leur vie, notamment les deux premiers, Crick et Bury. Et quant aux autres, eh bien, ils ont été expulsés d'une mission qu'ils avaient créée à Bonga, à la frontière du
Quand vous dites que ce Crick et Bury, ils y pénètrent quand ? Parce qu'on a tous en tête un peu Matteo Ricci pour la Chine.
C'est bien avant Matteo Ricci.
Ouais, donc Crick et Bury, c'est quand?
C'est à la fin des années 50, 1857.
Donc c'est la première fois, entre guillemets, que des missionnaires chrétiens rentraient au Tibet.
Auparavant, et il y a eu 2 missionnaires qui ont pu pénétrer jusqu'à Lhasa. C'est le fameux Huc et Gabé, et qui ont écrit d'ailleurs leur mémoire. Et c'est parce que Huc et Gabé sont parvenus à Lhasa, la première fois donc depuis des dizaines d'années que des missionnaires parvenaient à Lhasa, ils ont été expulsés par les ambans chinois qui étaient implantés devant Lhasa, puisque le Tibet est un pays vassal, entre guillemets, de la Chine, que Rome a eu l'idée de créer un évêché au Tibet. Mais après Huc et Gabé, et puis de manière fragmentaire aux marges, Crick et Bury.
Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas rentrer au Tibet ?
Parce que les Tibétains craignaient pour leur religion, craignaient pour leur pouvoir, craignaient pour leur richesse. Ils étaient en plus, d'une certaine manière, encouragés par les Chinois.
On craignait les chrétiens ou on craignait les occidentaux ?
La concurrence religieuse chrétienne, et on craignait aussi et surtout le fait de l'apport, disons, de la vision occidentale de la société, le fait que la société féodale tibétaine puisse être mise à bas, le servage, le progrès technique. Il y a tout un... ça serait très très long à expliquer, mais en tout cas, les Tibétains et les Chinois s'entendaient pour interdire à tous occidentaux de pénétrer au Tibet. D'ailleurs, pendant le moment où Gendre et Soulier était dans les marches tibétaines, donc de 1885 jusqu'à 1905, pas moins de 18 à 19 expéditions occidentales ont tenté de pénétrer au Tibet, anglaises, russes, suédoises. Aucune n'a pu y pénétrer, a pu parvenir plutôt à Lhasa, et toutes ont été refoulées par les troupes tibétaines, et même certains explorateurs ont perdu leur vie. Et c'est notamment le cas de Dorens, qui était un géographe français, qui a été tué en 1897.
Alors, il y a aussi une chose que vous dites dans votre ouvrage, il est difficile d'imaginer combien la France catholique du 19e siècle s'enthousiasmait pour la cause de l'évangélisation des peuples de l'Extrême-Orient, pour la conversion des petits Chinois au catholicisme. C'est-à-dire que là, nous, ça nous fascine, mais c'était le cas aussi de la France. En fait, on suivait à distance ces missionnaires.
Ah, écoutez, il y avait tout un tas de revues missionnaires.
Racontez l'histoire du sou, là. On donnait le sou pour les missions,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'était une Lyonnaise, Pauline Jaricot, qui avait inventé ce système.
Pauline Jaricot, qui s'offre de ma part, va être bientôt canonisée.
Un sou pour les missions, c'était un mode révolutionnaire de collecter les fonds. Et dans tous les diocèses, eh bien, on lisait les nouvelles édifiantes de toutes les missions du monde, particulièrement celles de Chine et des marches tibétaines. Et les gens les finançaient par des quêtes à l'église ou en envoyant des dons. Et d'ailleurs, tous les missionnaires recevaient une somme annuelle de la part des institutions créées par Pauline de Jaricot et ses successeurs. Et les évêques, évidemment, avaient aussi une solde, mais évidemment beaucoup plus importante.
Alors, on aurait pu aussi présenter un petit peu la Chine. Hein. Vous dites de la Chine qu'à l'époque, donc, c'est un tiers de l'humanité, mais ça n'est à l'époque que 400 millions d'hommes, ce qui fait déjà quand même pas mal, on imagine, au milieu du 19e siècle. Comme on ne peut pas parler de tout, j'aimerais qu'on s'arrête sur les deux paroisses. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, vous allez me dire, si j'ai lu trop rapidement, où s'est arrêté donc Jean-André Soulier, la paroisse de Tsekou et de Yaregong. Dans la première, il n'a pas la cure, mais il est vicaire avec un certain Jules Dubernard. Vous allez nous parler de ce personnage. Qu'est-ce que vous savez, alors on va dire là, de manière authentifiée, de son activité pastorale dans ces deux paroisses?
Alors, si vous le permettez, je dirais que tout d'abord, les missions qui dépendent de l'évêché de Tassien-Loup sont souvent éloignées de plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres. On a une poignée de missionnaires qui œuvrent sur un territoire qui est grand comme à peu près grosse moitié de la France.
Mettons, quand vous dites une poignée, c'est-à-dire qu'à vous lire, en fait, c'était une bonne dizaine, c'est ça, une petite vingtaine.
Une petite vingtaine.
Comme la moitié du territoire de la France.
Comme la moitié du territoire français. Je ne sais pas si vous voyez. Les voyages sont très longs. Pour aller de Tassien-Loup à Tsekou, qui est le premier poste de Jean-André Soulier, il faut 37 journées de voyage. À 25-30 kilomètres de moyenne par jour.
Ça veut dire que cette paroisse de Tsekou, elle couvre quel territoire?
Alors,
c'est des centaines de kilomètres?
Théoriquement, elle couvre des dizaines de kilomètres, au moins une centaine de kilomètres de long, une centaine de kilomètres de large. Mais ça, c'est du théorique.
Mais c'est pire que le Rouergue, il y a tellement de vallées.
Oui, bien sûr. Mais en théorie, ça se résume à quelques bourgades où il y a quelques fidèles, avec un point d'appui pour le curé qu'il visite au moins une fois par an. Et le nombre de fidèles que Jules Dubernard a en charge à Tsekou, c'est quelques dizaines. Selon les statistiques qu'il donne à ses supérieurs, il chiffre ça à peu près à 300. Mais on peut imaginer que c'est un chiffre un petit peu exagéré, puisque en fonction évidemment du nombre de ses ouailles, il avait des subsides en contrepartie pour pouvoir les entretenir.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que à vous lire aussi, même si je le confesse, elle est en direct, hein, j'ai pas lu in extenso les 480 pages, mais j'ai quand même pas mal parcouru votre livre. Ils étaient quand même un peu sous surveillance aussi des autorités chinoises. Il s'agissait pas d'aller faire du porte-à-porte pour annoncer le Christ. À quoi ressemble l'activité pastorale de ces hommes?
D'abord, il devait faire face à trois pouvoirs qui coexistaient. Et en fonction des circonstances, c'était l'un qui prenait le pas sur l'autre. Il y avait d'abord, évidemment, le pouvoir chinois, l'empire chinois qui avait la tutelle de ces régions, disons, nominatives. Mais en réalité, les mandarins chinois avaient un pouvoir assez faible. Et ceux qui détenaient l'essentiel du pouvoir étaient soit des roitelets locaux, avec lesquels parfois les missionnaires arrivaient à avoir des relations peu ou prou cordiales. Mais en revanche, ils étaient en butte à l'hostilité des couvents bouddhistes. Moi, je dis la masserie par facilité, mais je sais que les puristes me reprendraient, puisque dans les lamasseries, il n'y a pas que des lamas. Il y a toutes sortes de catégories de moines. Un lama, c'est un moine, disons, éduqué d'un niveau supérieur. Tous ne l'étaient pas.
Mais alors, ceci étant posé sur les trois pouvoirs, une fois plus, je pose ma question, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Quelle était leur activité pastorale? Aller visiter les 300 chrétiens locaux et s'occuper d'eux?
D'abord,
nourrir leur vie de foi?
Ils faisaient pas que ça. D'abord, ils étaient bâtisseurs. Il fallait construire leur propre logement, leur presbytère, leur église. Et chacun avait à cœur de construire une église dans leur mission. Un petit peu comme on l'avait fait au Moyen-Âge en France. Parce que chaque paroisse de France a son église. Dans ma commune, par exemple, à Saint-Jury, il y a 4 églises. Donc, quelque part, qui ont été payés par les paroissiens. Là, on refait la même chose. On construit une église. On fait venir des vitraux de France, des ornements, etc.
C'est-à-dire, on fait construire des églises avec du matériel qui vient de France.
Ah non, pas du matériel. Le bleu bois, on va
les chercher dans les forêts.
Les vitraux, oui, les ornements. Des chandeliers, les ornements, les vêtements liturgiques.
Jusqu'aux marches du Tibet.
Jusqu'aux marches du Tibet, ça venait par caisse entière, sur le fleuve bleu, 4800 km de long. ça m'était quasiment 3 mois pour parvenir de Shanghai. Et de même que les livres aussi parvenaient par caisse entière, ils étaient en contact avec l'Europe entière, ces missionnaires. Ils étaient isolés physiquement, mais pas intellectuellement. Ils avaient beaucoup de contacts. Alors, que faisaient-ils? Donc, ils étaient constructeurs, bâtisseurs. Ils géraient aussi des fermes qu'ils louaient de manière à pouvoir nourrir leurs chrétiens. Ensuite, ils avaient les occupations habituelles, si vous voulez, d'un curé, à savoir les communions, l'église, les confessions, les cérémonies d'enterrement. Et puis après, il y avait aussi les explorations, la chasse aux animaux sauvages, les recherches botaniques.
On y reviendra, puisqu'il était à la fois explorateur, zoologiste, entomologiste, botaniste, c'est même dans le titre de votre livre. Il y a un passage comme ça où vous dites, vous posez une question, pourquoi les Occidentaux font-ils objet d'un tel mépris à l'époque? Pourquoi suscitent-ils tant de méfiance? Et en tout cas, dans ce passage, vous dites une chose qui peut aider à comprendre un peu ce que devait vivre, entre autres, ce Jean André Soulier. C'était déjà l'aspect physique, dites-vous, des Occidentaux qui répugnaient un peu les locaux, et leur comportement jugé empreint d'inhumanité, ça veut dire quoi?
Alors, les comportements, bien sûr que pour nous, les comportements des missionnaires en Chine et dans les marchés tibétains seraient jugés tout à fait conformes à l'idée que l'on se fait des choses. Mais les Tibétains, par exemple, refusaient la chasse. Dont les missionnaires étaient de grands chasseurs. Ils fumaient la pipe, ce que ne faisaient pas les Tibétains. On acceptait à l'église les hommes et les femmes, ce que ne faisaient pas les Tibétains. Et tant d'autres choses encore. Évidemment, dans cette haine des bouddhistes et des Tibétains à l'égard des missionnaires, il y avait évidemment beaucoup de choses fausses, beaucoup de racontars, beaucoup de... les Tibétains racontaient par exemple que les missionnaires éduquaient les orphelins pour leur prendre les yeux une fois morts et pour pouvoir voir à travers les montagnes, par exemple, ou ils pouvaient inculquer aux habitants des filtres qui les obligeaient après à devenir chrétiens et abandonner la religion bouddhiste. Enfin, il y avait vraiment une haine tout à fait réciproque. Ceci dit, j'ai noté quand même que chez les missionnaires, il y avait une compassion et un amour tout à fait particulier pour les gens du peuple. La haine, elle s'exerçait qu'à l'égard des autorités et de ce que moi j'appelle les lamas, qui étaient en réalité des moines.
Parce que là, la haine dont je parlais, c'était les locaux qui avaient du mal avec les Occidentaux. Et vous dites aussi que l'inverse pouvait exister.
Bien sûr, c'était réciproque.
Alors, il y a un passage, cette fois... c'est Jean-André Soulier qui a écrit... Ah non, vous dites, il aurait pu écrire à sa famille, à l'instar du père Régis Gervais, missionnaire à Canton. « Mes chers parents, me voici au lieu désiré dans ce Tibet qu'entrevit mon enfance, parmi des hommes inconnus dont j'ignore la langue, mais à qui je souris, que de sentiments variés, que d'émotions neuves font tressaillir mon âme au contact de cette hostie pain des anges et pain d'Orient, de cette voix d'enfant qui répond à mes versets liturgiques, etc. » Alors, c'est pareil, hélas, il faut avancer à grands pas. On aurait pu parler de ce fameux Étienne-Jules Dubernard, qui a été donc son curé, un corésien, qu'on appelait le grand mouton, semble-t-il, sur place. Peut-être
il
qu'on
avait les cheveux frisés.
Peut-être qu'on pourra en parler à la fin de l'émission.
Il était assez grand, il avait les cheveux frisés.
Alors,
c'était ce surnom.
Parmi tous ces hommes, donc il y en a un certain nombre qui ont payé de leur vie d'oser aller là-bas et d'annoncer le Christ, hein, au-delà peut-être de leur maladresse. C'est le cas de Jean-André Soulier. Et contrairement à l'idée peut-être qu'on pourrait s'en faire, ce ne sont pas les autorités chinoises qui l'ont persécuté, c'est donc des bouddhistes, hein,
les bouddhistes
qui l'ont tué. Alors expliquez-nous dans quelles circonstances est arrivé son martyr.
Alors, c'est
circonstances historiques, j'entends.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la région des marches tibétaines était à cette époque-là une région très convoitée. Les Français donc étaient au Tonkin et visaient vers les richesses du Yunnan, qui étaient des territoires donc limitrophes des marches tibétaines. Les Anglais, dans le cadre du grand jeu, l'ours anglais se combattait, l'aigle anglais combattait l'ours russe dans le cadre du grand jeu pour pénétrer dans les vastes plateaux tibétains. Les Chinois, évidemment, voulaient conforter leur pouvoir, et toutes ces grandes puissances, évidemment, lorgnaient sur ces territoires. Lorsque les Anglais pénètrent à Lhasa en 1904 lors d'une expédition, dans laquelle d'ailleurs des centaines de Tibétains sont massacrés dans des batailles tout à fait inégales face à l'armement anglais et aux magiques, évidemment, aux pratiques magiciennes des Tibétains, évidemment, se défendre était quasiment, de manière efficace, était quasiment impossible. Et donc, lorsque les Anglais pénètrent à Lhasa, les Chinois y voient une bonne occasion pour récupérer de manière militaire, administrative, économique, des territoires qui peu à peu leur avaient échappé et qui étaient administrés un peu par eux, un peu par les Tibétains et la plupart du temps par les lamasseries. Et donc, dans ce combat entre les Chinois et les Tibétains, les missionnaires font l'erreur d'imaginer que
c'est la Chine qui va les protéger.
Il vaut mieux être allié de la Chine qui va les protéger plutôt que des Tibétains. Et donc, évidemment, en retour, les Tibétains vont se venger des missionnaires. Et ça sera le drame, d'ailleurs, de 1905, où quatre missionnaires, dont Gendre et Soulier...
4 sur 9, hein, vous dites à l'époque. 4 sur 9. Ils sont 9 dans les marches tibétaines. Hein.
Ils sont 9 dans les marches tibétaines et quelques autres à Tassinlou, quand même. Donc, ils étaient 15-16 au total. Donc, dans les marches tibétaines, ils étaient, proprement dit, ils étaient 9.
Donc le 3 avril 1905, racontez-nous ce qui arrive à ce Jean-André Soulier avant qu'on fasse une deuxième pause.
Eh bien, c'est très simple. Hein. Un lama qu'il avait comme ami l'avait alerté que dans la ville principale de Batang, des troubles avaient éclaté, que les missionnaires avaient été massacrés. Il s'agit d'Henri Musso, qui était massacré quelques jours auparavant. Jean-André Soulier ne le croit pas parce que les Tibétains généralement ne tuent pas. Ils font pression pour qu'on s'enfuit, ça a été le cas d'ailleurs plusieurs fois auparavant. Je pense notamment à ce qui s'est passé en 1987 pour Jean-André Soulier, où il s'était déjà défendu une première fois les armes à la main. Donc il n'y croit pas. Il reste sur place. Et très rapidement, c'est le drame, sa maison est encerclée par des dizaines de lamas tibétains aidés par leurs fermiers. D'un premier temps, il tire quelques coups de fusil en l'air pour les faire fuir, ce qui est le cas pendant quelques minutes. Ils reviennent évidemment en force et à partir de ce moment-là, Jean-André Soulier, qui jusqu'alors avait fait preuve d'un grand courage, d'une grande pugnacité, avait même osé au cours de sa carrière se défendre les armes à la main, il refuse de se défendre cette fois-ci, il se laisse prendre, on pille sa maison, on défait ses bagages qu'il avait fait auparavant, on détruit ses collections de fleurs, d'insectes.
Et on finit par le...
Et au bout de 12 jours de torture, on finit par l'exécuter d'une balle dans la tête après qu'il y ait eu une tentative de décapitation. J'ajouterais que...
Rapidement. Allez, rapidement, parce que je veux qu'on fasse cette deuxième pause, sinon on n'aura pas le temps à la fin pour parler du botaniste.
Que lorsqu'il était jeune, il a joué son propre martyr au petit séminaire de Belmont. Il a joué le rôle de Saint Agapit, qui a subi lui aussi tout un tas de sévices. C'est un jeune romain qu'on avait abjuré d'abandonner la religion catholique et donc qui a fini par le payer de sa vie. Et donc Jean-André Soulier avait joué ce rôle-là lors de la fête de fin d'année du petit séminaire de Belmont.
Vous dites que les circonstances de la mort donc, de Jean de Ressulier sont bien connues parce qu'il y avait des témoins, il y a eu des témoignages. Entre autres, en définitive, il ne trouve qu'un crime à lui reprocher, celui de prêcher une religion autre que celle de la lamasserie. Et un peu plus loin, en temps ordinaire, il n'était pas toujours patient. Entre les mains de ses bourreaux, il est doux comme un agneau et se prépare pieusement au sacrifice suprême. Un missionnaire, botaniste, martyr au Tibet, c'est donc le titre de votre livre. On fait une deuxième pause et on vous retrouve.
Emmanuel Pella.
Jean-André Soulier, missionnaire, botaniste aveyronnais au Tibet, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec vous, Christian Font, vous êtes docteur en histoire, ancien chercheur associé donc à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, CNRS Paris, et non pas actuel chercheur. Vous avez été en poste de 1989 à 1999, vous m'avez fait cette précision pendant la pause, et auteur donc d'un livre sur cet homme, cet Aveyronnais, mort donc martyr, on l'a vu juste avant cette deuxième pause musicale, Jean-André Soulier, en 1905 et qui était né en 1858 dans le Rouergue. Voilà, petite session de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas suivi avant. Alors cet homme, comme indiqué dans le titre de l'émission et de votre livre, c'était aussi donc un missionnaire, un aventurier, un explorateur, et vous dites aussi un zoologiste, entomologiste et botaniste. Et ça n'avait pas l'air d'être le seul, c'est-à-dire en fait, je vais être un peu provocateur, ils avaient du temps à tuer et du coup ils ont profité pour regarder ce qu'il y avait autour d'eux, ou en fait ça faisait partie de la commande aussi des missions étrangères.
Alors, pour le chercheur, c'est l'étonnement. C'est vrai que dans les multiples occupations des missionnaires, il y a énormément de temps qui est consacré aux activités scientifiques. Alors, il y a une raison simple et évidente à prendre en compte, et c'est que les missions avaient besoin de beaucoup d'argent pour entretenir dans les missions, et que le seul moyen de se procurer de l'argent indépendamment des dons, des subsides qu'on a déjà évoqués plus avant dans l'émission, eh bien le seul moyen de s'en procurer, c'était d'acheminer vers l'Europe occidentale, Paris en l'occurrence la plupart du temps, bien des animaux. Des dépouilles d'animaux, des dépouilles d'oiseaux, des insectes, notamment des papillons qui se vendaient fort cher, et aussi des végétaux et des fleurs rares. on n'a pas de traces des paiements effectifs et des sommes ainsi recueillies, mais on sait que, par exemple, pour les papillons, les frères Obertour, qui étaient des entomologistes réputés à l'époque, payaient les papillons missionnaires assez cher, et en échange, ils leur indiquaient aussi, puisque c'était un imprimeur de Rennes, des ouvrages de religion, des catéchismes traduits en chinois ou en tibétain, etc.
Donc, il courait les marches tibétaines. Et alors, d'ailleurs, il y a un passage dans votre livre. Vous dites qu'en fait, c'était pas si simple en partie avec les locaux parce que les locaux n'avaient pas l'habitude de garder entières les dépouilles, c'est ça ?
Oui. Et ils en coupaient la tête pour les sacrifier aux divinités. Alors évidemment, une dépouille sans tête, ça n'avait plus aucune valeur. Et donc petit à petit, Jean-André Soulier et ses confrères ont fait comprendre, disons, aux chasseurs qu'ils engageaient, aux traqueurs qu'ils engageaient, que la nécessité de conserver les dépouilles entières s'ils voulaient recevoir leur gratification. Et les envois de Jean Dressoulier vers l'Europe, c'est quelque chose de colossal, de Jean Dressoulier et de ses confrères.
Alors vous dites que
Monseigneur en particulier,
Monseigneur Félix Buite, et puis après Monseigneur Pierre Giraudot,
oui,
donc deux évêques presque contemporains, deux évêques contemporains de Jean Dressoulier, vous dites pendant 40 ans, les deux évêques ont orienté la mission du Tibet dans une activité scientifique multiforme, reconnue par les savants comme par les politiques.
Ah oui, absolument. Parce que là je parle de chasse, de chasse, d'entomologie, et de papillons et de végétaux, mais ils avaient aussi créé des stations de météorologie, ils envoyaient des spécimens de roches, ils envoyaient aussi des objets religieux, ils faisaient des recherches d'ethnologie. Enfin, c'était vraiment quelque chose, une activité scientifique assez considérable. Et ils passaient effectivement des semaines entières dans la brousse, les plateaux tibétains, à chasser et à cueillir des végétaux. C'est quelque chose de considérable. Alors, les chiffres sont assez édifiants.
Je vais les citer. Hein,
si allez-y, je vous en prie.
14 000 coléoptères, vous dites, juste pour Jean Dressoulier.
Oui,
14 000 coléoptères, 1 000 000 de papillons.
Oui, alors ça c'est au total, mais certaines années, il arrivait à en envoyer 3 000 à 4 000. Alors évidemment, il ne les capturait pas lui tout seul. Il engageait des dizaines d'enfants tibétains. Il leur enseignait comment les capturer, comment les garder intacts, comment les traiter. Il y avait des bouteilles avec du liquide pour les sauvegarder les éléments les plus fragiles de l'insecte. Enfin, c'était quelque chose de tout à fait organisé et d'assez fascinant à voir comment tout ça était mis en forme.
Ça contribuait à vous le rendre sympathique, ce personnage?
Ce qui me le rend sympathique, c'est moins cet aspect des choses, qui est assez classique finalement, parce que d'autres l'ont fait, hein. Je pourrais citer d'autres missionnaires qui ont eu une activité scientifique au moins autant remarquable que celle que Jean Dressoulier, même plus d'ailleurs, ça c'est sûr. C'est l'ensemble, si vous voulez. Jean Dressoulier, finalement, il avait tellement de facettes, et il s'occupait de tant de choses, avec une humilité, une abnégation, un courage, une constance, jour après jour, mois après mois, année après année, ça force l'admiration. Il était aussi médecin, il a vacciné des dizaines de milliers de Tibétains.
Vous disiez d'ailleurs de lui que c'était le sorcier blanc, c'est ça?
C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelait à Yarigon.
Alors il a découvert, semble-t-il, aussi deux choses, j'allais dire, un primate d'altitude et un rosier, ai-je compris?
Oui.
Parlez-nous de l'un et de l'autre, quelles sont ces deux découvertes qu'il a fait qui lui ont valu une certaine notoriété, non?
Alors le premier, c'est un singe noir à bout de nez blanc, à poitrail blanc, le Rhinopithecus bietis.
Qui existe encore?
Ah bien sûr, il existe encore. Il en a envoyé 7 exemplaires, disons, au muséum d'histoire naturelle. On a donné le nom de l'évêque, puisque c'était lui qui avait en charge évidemment la mission. C'est pour ça qu'il s'appelle Bietis. Mais je rectifie la chose dans le livre. C'est bien Jean-André Soulier. J'ai un article qui était publié donc dans la revue du Muséum d'Histoire Naturelle qui lui attribue la découverte. Il a bien envoyé 7 spécimens.
Et l'évêque savait qu'on a donné...
Oh, il a été fier.
Au singe, son nom.
Bien sûr.
D'accord.
Après, il y a un rosier qui porte son nom. La Rosée, Souliana.
Éblouissement pour les yeux, dites-vous, ah, en citant une correspondance de l'époque.
Oui. Alors, je peux dire que c'est d'autant plus un éblouissement que je me suis procuré 4 de ces rosiers que j'ai fait planter dans les jardins de ma commune sous un panneau indicatif consacré, dédié à Jean-André Soulier, missionnaire au Tibet. Et les habitants de la commune et les visiteurs de ma commune peuvent voir la rose du Père Soulier, qui est une rose tout à fait célèbre en France et en Occident, qui avait été étudiée par un rosieriste belge qui s'appelait Crespin.
Vous voulez ajouter quelque chose sur ces activités de zoologiste, entomologiste ou botaniste, ou est-ce que je conclue.
Juste sa rencontre avec des explorateurs. Il a rencontré dans ses fonctions beaucoup d'explorateurs, et notamment une expédition qui avait été organisée par un géographe célèbre de l'époque qui s'appelait Gabriel Bonvalot, et qui était secondé par le prince Henri d'Orléans, second fils du duc de Chartres et arrière-petit-fils de Louis-Philippe. Et Jean-André Soulier s'est lié d'amitié avec le prince Henri d'Orléans. D'ailleurs, lors d'une autre émission, il a rencontré à nouveau Jean-André Soulier à Tsekou. Ils ont chassé ensemble. D'ailleurs, le prince Henri d'Orléans lui a fait cadeau d'armes, de matériel, de piégeage, etc. À son contact, il a beaucoup appris, puisque c'était au début de ses fonctions dans les marches tibétaines. Et le prince de Henri d'Orléans lui a bien rendu, parce qu'il y a rendu hommage dans tous ses écrits. Et le dessin qui figure en première de couverture de mon ouvrage est tiré d'un des ouvrages du prince Henri d'Orléans.
Alors, Monseigneur Fonlu, François Fonlu, un petit mot en introduction de votre livre. Il vous a fait une préface. Il laisse entendre que lui aussi, il s'est fait prendre par cette histoire. Et quelle histoire ? Allez, je me disais à la fin, il faudrait que vous y alliez sur place, non ? Christian Fonte.
Alors, j'ai pensé aller sur place pour m'imprégner des lieux.
Mais il n'est pas trop tard.
Oui, alors la seule raison qui m'a poussé à y renoncer, je donne un exemple. Tassien Lou, au moment où Jean-André Soulier y réside, c'est 8-9 000 habitants maximum. Une seule rue, avec des échoppes de chaque côté, au moment où je parle, c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants, des gratte-ciels, des autoroutes. La campagne est défigurée grandement. Il en est d'ailleurs de même dans de nombreuses régions des marches tibétaines et du Tibet.
Et les deux villes ou villages de l'époque auxquelles s'est rendu Tsekou et Yaregong?
Pareil, ce sont devenus des villes de moyenne importance. Alors, il peut y avoir quelques survivants, quelques éléments qui attestent de ce passé qui est désormais révolu, mais je tiens pas à y aller. Je préfère avoir en tête les écrits de Jean-André Soulier, de ses confrères missionnaires, et de me le représenter avec leurs propres mots, leurs propres images, leur propre représentation mentale d'une certaine manière.
Voilà, Monseigneur Fonlu qui dit que c'est une plongée dans la grande période, on va dire, des pays missionnaires et du pays missionnaire que fut l'Aveyron. Eh bien, merci beaucoup Christian Fonte d'avoir fait un détour par nos studios. Et je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Un missionnaire botaniste martyr au Tibet, Jean-André Soulier, 1858-1905. Il est publié à compte d'auteur, où est-ce qu'on le trouve ?
Alors, on peut le trouver à l'évêché de Rodez, dans les librairies de l'Aveyron, à Rodez, Millau, Sainte-Afrique, Camarès et d'autres. On ne l'a pas mis en vente ailleurs. Après, on peut très bien le commander à l'auteur lui-même. En tapant missionnaire botaniste Tibet, vous accéderez à un article publié par Tela Botanica, dans lequel il y a un bon de commande. Et si vous me faites l'amitié d'en commander, eh bien, je serai fier pour mon Jean-André Soulier, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration.
Et Dieu sait si vous avez travaillé 4 longues années. Merci beaucoup Christian Fonte, un grand merci à vous. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.